Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave.
Bonjour à tout le monde. Nous poursuivons avec un peu de retard, donc je rentre dans la question des scénarios. Je vais faire le tour de ce qu'on appelle les scénarios aujourd'hui en France, les scénarios énergétiques. Et ensuite, nous aurons l'honneur d'écouter Didier Roux, à qui je demandais de parler d'un sujet que moi je connais mal. Vous avez vu que dès cette année et l'année prochaine, enfin non, vous n'avez pas vu pour l'année prochaine, mais je le dis, mais à nouveau, je vais parler de beaucoup de choses. Hein. Je prends le risque de parler d'énormément de sujets, mais j'ai fait l'effort d'essayer de comprendre assez globalement cette problématique de la transition énergétique, mais il y a quand même des sujets sur lesquels je préfère avoir des spécialistes, et donc je ne ferai pas de cours sur la question de l'habitat, et rien de mieux que d'avoir quelqu'un qui s'est occupé de ça un certain temps. Ça sera Didier Roux, je le présenterai tout à l'heure. Voilà, alors, à nouveau, ça vous l'avez entendu, mais les choses sont fixées. Quelques grands critères qui permettent de construire ces scénarios. Premier critère, c'est diminuer la consommation d'énergie. Alors, j'ai répété plusieurs fois, 1600 TWh aujourd'hui à peu près, la consommation d'énergie en France. Et évidemment, la question c'est de combien on peut diminuer cette énergie à l'horizon 2050. Pour ceux qui sont debout, il y a encore des places. Hein. Vous pouvez venir au milieu. Alors, il y a des raisons de penser qu'il y aura diminution de consommation d'énergie, ne serait-ce que par des efforts de sobriété à l'échelle collective ou individuelle, et puis aussi en raison d'efficacité énergétique améliorée dans tout un tas de secteurs, le chauffage, sans doute Didier en parlera, l'industrie, mais l'industrie c'est pas nouveau, hein, que l'industrie depuis toujours fait des efforts d'efficacité énergétique et l'améliore régulièrement, c'est pas nouveau, les transports, je veux juste montrer ceci, le simple passage du véhicule électrique, du véhicule thermique au véhicule électrique, c'est une diminution de consommation d'énergie parce que les rendements sont bien meilleurs. Voyez, pour obtenir la même quantité d'énergie utile, il en faut 100 pour le véhicule thermique pour arriver à 13, il en faut 18 pour arriver à 13, ce sont des rendements de 74% pour le véhicule électrique, de 13%. Donc voilà des éléments qui permettent de penser que sans effort, si ce n'est celui de passer du véhicule thermique au véhicule électrique, on va diminuer des consommations d'énergie. Simplement, vous allez voir que ces questions de consommation, de niveau de consommation, peuvent conduire à des scénarios assez extrêmes en termes de diminution de la consommation. J'aurai pas le temps de discuter de cela en détail, mais je dirai quelques mots. La deuxième chose, c'est évidemment de se débarrasser des énergies fossiles. Donc ça veut dire qu'il faut se débarrasser du charbon. En France, c'est pas très difficile, c'est bientôt le cas, totalement. Puis le pétrole, puis le gaz, le gaz étant le moins émetteur. Et là, la question est la même. Est-ce qu'il y aura vraiment zéro fossile en 2050? Bon, je vous l'ai dit, je ne le pense pas. Mais il y a des scénarios, évidemment, qui fonctionnent avec ça. Il faudra du carbone. Ça, c'est un sujet. Donc, il faudra de nouvelles sources de carbone. C'est un sujet dont je dirais assez rapidement qu'il est assez maltraité, de mon point de vue, dans les scénarios. Donc, on invoque la biomasse, hein, pour l'essentiel. Et la question, c'est combien de térawattheures pourront être atteints avec ces nouvelles sources de carbone. Évidemment, électrifier le système énergétique. Aujourd'hui, il est à 25%, hein, c'est très haut, hein, vous le savez, en France, pays très électrique. La plupart des scénarios visent quelque chose autour de 50%. Rien que ça, ça sera une révolution, c'est déjà un défi majeur. Et vous avez compris pourquoi on va électrifier plus, parce que on va augmenter la part de l'éolien et de solaire en particulier, et ça, ce sont des énergies électriques. Là aussi, donc, de combien on verra que, à une époque, on a invoqué assez facilement 100% d'énergie renouvelable pour la partie électrique, et on voit que on verra que les choses sont moins faciles que nous ne le pensions, enfin pas moi, mais certains le pensaient il y a quelques années. Et évidemment, il y a la question de l'énergie nucléaire, jusqu'à quel niveau. Voilà, tout ça, ce sont les questions, mais enfin, tout est résumé dans un schéma comme ça. On part de là, 25% d'électricité, il faut diminuer la consommation totale, augmenter la part électrique, et puis se poser la question de si ça, c'est pas du fossile, c'est la partie non électrique, qu'est-ce que c'est ? Voilà, vous avez finalement, c'est ça, hein, la transition énergétique. Maintenant, il faut le réaliser, c'est pas simple. Voilà. On a discuté de ça ce matin. Une véritable politique énergétique, c'est pas uniquement une politique énergétique qui calcule les émissions de CO2. C'est pas uniquement le carbone. Il y a tout un tas d'autres paramètres, et j'en évoque quelques-uns ici. Évidemment, il est hors de question de ne pas assurer une sécurité totale d'approvisionnement, éviter les blackouts. Et manquer d'énergie, donc il y a tout un tas de choses à régler autour de cette question. Évidemment, il faut que ce soit de l'énergie qui soit accessible à tous, donc il y a un paramètre économique à respecter. Souveraineté énergétique, évidemment pas totale, un pays comme la France ne peut pas être totalement souverain sur le plan énergétique, nous allons dépendre, d'ailleurs on l'a dit, hein, la dernière fois, il y a de nouvelles dépendances, mais néanmoins, voilà, construire une politique énergétique, c'est aussi se poser la question d'être assez souverain sur un certain nombre de secteurs. Et enfin, évidemment, il faut que cette transition s'accompagne d'une nouvelle activité industrielle dans les secteurs. Les deux choses, la souveraineté, pardon, et activité industrielle sont liées. Évidemment, si nous voyons arriver massivement de nouvelles technologies et sans y être présent industriellement à l'échelle de la France ou de l'Europe, ça poserait un certain nombre de problèmes. Donc c'est aussi des opportunités de réindustrialisation, comme on le dit beaucoup ces jours-ci. Voilà. Alors, les scénarios, avant de rentrer dans le détail de certains, c'est, je dirais, trois grandes tendances. Il y a les scénarios très décroissants. Alors, notamment la stratégie nationale bas carbone, hein, c'est celle sur laquelle a été construite la loi, hein, dont j'ai parlé de 2015, hein, la loi de la transition énergétique, la croissance verte. Scénario négawatt, d'ailleurs SNBC, c'est le cousin germain de négawatt. Les scénarios de l'ADEME en 2015, donc des scénarios très très décroissants. Alors, la question de la décroissance, c'est une question qui est très débattue, vous savez, en ce moment. On l'a traduit parfois par effort de sobriété. J'ai utilisé le mot de sobriété, c'est un mot assez complexe, en dépit de ce qu'on pense. Mais cette question de la décroissance, elle est évoquée pour plein de raisons. Pour des raisons idéologiques, pour des raisons... d'analyse des ressources énergétiques potentielles à l'avenir, et puis aussi parce qu'il y a cette idée assez profondément ancrée qu'il est impossible de créer un découplage entre croissance et émissions de CO2. Alors, voilà l'Europe. Voilà les émissions de CO2 en Europe depuis, ici j'ai pris 1980, il y a à peu près une baisse de 35% des émissions de CO2 depuis 1980 en Europe, par habitant. C'est des émissions par habitant. Et voilà la croissance du PIB par habitant. Ici c'est en euros constants, mais si vous changez les chiffres, ça fait à peu près une augmentation du PIB de 50% par habitant depuis 1980. Voilà. Donc, on peut tenter le coup de travailler à des technologies qui permettent une certaine croissance. Je ne dis pas de viser des croissances à la chinoise il y a quelques années ou à l'indienne au-dessus de 10%, mais de viser une certaine croissance. Voilà. C'est ma position. Je ne crois pas que la décroissance est la solution. La décroissance est aussi une source d'inégalité, c'est une source de violence sociale, c'est une source de perte de liberté. Et on peut en discuter, c'est pas le sujet de mon propos ici, on va parler de scénarios. Mais en tout cas, il y a les scénarios décroissants pour l'essentiel. Il y a des scénarios, je dirais, qui proposent de faire disparaître le nucléaire, on le sait, et donc qui visent, notamment pour l'électricité, 100% d'énergie renouvelable, et qui, donc, en gros, se traduisent par de l'éolien de solaire massivement pour l'électricité et de la biomasse massivement pour le thermique. Quand je dis massivement, c'est pas autant massivement que certains scénarios, puisque ceux-là, en plus, vu la difficulté, proposent des baisses de consommation d'énergie absolument massives. Et puis il y a des scénarios, je dis nucléaires, pas parce qu'ils sont très très pro-nucléaires, certains le sont, mais parce qu'ils permettent l'hypothèse d'énergie nucléaire pour la partie électrique. En général, ça c'est quelque chose de très important, et ces scénarios sont assez précis sur la compréhension de la partie électrique. Je l'ai déjà dit, d'une certaine façon, c'est assez facile. C'est beaucoup plus flou sur la partie non électrique. Donc vous verrez, on évoque en permanence la biomasse, le biogaz, les gaz décarbonés, etc., mais sans véritablement nous dire comment on fait ça. C'est un sujet que j'aborderai l'année prochaine. Voilà, donc premier de ces scénarios, il faut le mentionner, hein, c'est la stratégie nationale bas carbone, hein, c'est celle qui a été élaborée pour le gouvernement français et pour la loi de 2015, ici, donc la stratégie bas carbone, nationale bas carbone, c'est la feuille de route de la France, hein, pour lutter contre le changement climatique. Et donc, en 2015, elle définissait une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2050, qui était une division par quatre. Il y a eu plusieurs révisions de cette SNBC, mais en gros, elle se donne comme objectif neutralité carbone, comme tout le monde, en 2050. Voilà, par exemple, le type de trajectoire qui est... imaginez pour un scénario comme celui de la SNBC, avec une consommation d'énergie, vous voyez, qui est de l'ordre de 1000 TWh, enfin entre 900 et 1000, c'est une diminution colossale de la consommation d'énergie, avec à peu près 50% de l'électricité. Ce qui est assez troublant pour moi dans ce type de graphe, c'est que ça laisse sous-entendre que... les transports, c'est zéro émission, que le résidentiel et le tertiaire, c'est zéro émission, que l'industrie de l'énergie, c'est zéro émission, et il reste un peu d'émissions de l'industrie et des émissions de l'agriculture. Objectivement, ça me paraît assez délirant d'imaginer qu'il y aura zéro émission pour l'industrie de l'énergie, pour les transports, etc. J'ai déjà expliqué que le véhicule électrique, ce n'est pas zéro émission. Voilà. Donc c'est assez troublant de travailler avec telles hypothèses, mais c'est le cas. Donc la stratégie nationale bas carbone, c'est ça, hein. Aujourd'hui, 1600 TWh, l'électricité, c'est à peu près 450, 470. Et donc, 2050, ici, 930 TWh et beaucoup d'électricité. Voilà. Ça, c'est juste pour dire que quand on regarde les évolutions... Alors, vous voyez ici, ça, c'est la situation en 2019, donc c'est aujourd'hui. Les 25%... les 25% d'électricité sont répartis de cette façon suivante, mais là, ce que vous voyez entre 2020 et 2050... c'est donc de montrer que la consommation d'électricité, elle se fera essentiellement dans l'industrie, dans le transport, donc c'est assez compréhensible, hein, c'est l'électrification de tout un tas de procédés industriels et le passage aux véhicules électriques. Présidentielle, tertiaire, assez curieusement, ça ne bouge pas beaucoup. Et puis, de la production d'hydrogène qui demanderait de l'électricité. Mais on voit, c'est surtout transport et industrie qui seraient électrifiés. Voilà, donc ça, c'est la trajectoire qui est proposée. Aujourd'hui, 1600 TWh. Et donc, avec déjà quelque chose comme 1200 TWh en 2035 pour arriver à 930 en 2050. Dans cette stratégie, à nouveau, hein, c'est la loi, hein, c'est la loi française. La part non électrique, c'est 420 TWh, et ce qui est indiqué dans le scénario SNBC, c'est que ces 420 TWh seraient fournis d'une part par du gaz, à hauteur de 150 TWh. Alors, gaz décarboné, pas toujours très clair de quoi on parle, ça peut être de l'hydrogène, s'il est décarboné, ça peut être du biogaz, mais en tout cas, vous voyez, il n'y a pas de gaz naturel là-dedans. Et puis, ce qui n'est pas gaz, bois, biocarburant, géothermie, chaleur fatale, etc., pour à hauteur de 270 TWh. Voilà. Ça ressemble beaucoup au scénario négawatt. Ici, comme vous le voyez, dans le scénario négawatt, qui est un des scénarios qui fait disparaître le nucléaire, puisque vous voyez, le nucléaire ici disparaît dès 2035, hein, donc c'est, on n'attend pas le vieillissement du nucléaire, on l'arrête. En 2050, on consomme plus de pétrole, on ne consomme plus de charbon, on ne consomme plus de gaz naturel, voilà. Et ce qui monte ici, c'est la biomasse, c'est l'éolien, c'est le solaire en bleu, et c'est le biogaz. Voilà. Donc, ce sont des scénarios qui... Il y a donc un certain nombre de scénarios ainsi qui font une hypothèse dont je vous ai dit la semaine dernière que je ne peux pas y croire, à savoir qu'il y a zéro fossile, zéro gaz naturel, zéro nucléaire, et que tout peut marcher correctement. La semaine prochaine, on parlera, et ça sera mon dernier cours, de problème de stockage d'énergie, et qu'il suffira d'avoir essentiellement du vent et du soleil et de la biomasse. Mais néanmoins, ce sont des scénarios qui sont présentés aujourd'hui et qui ont inspiré la stratégie nationale bas carbone. Une grosse quantité de biomasse, 510 TWh, aujourd'hui au total c'est 170, hein, vous reverrez, mais dans la biomasse c'est surtout du bois. Donc voilà la répartition à peu près des différents composants, et avec une électricité à 530 TWh. Essentiellement éolien, solaire et l'hydraulique qui ne bougent pas en général. Dans les scénarios, l'énergie, l'hydroélectricité ne bouge pas parce que c'est cette idée qu'on ne va pas construire massivement des barrages et des stations de transfert d'énergie par pompage en France. Voilà. Alors, un tableau un peu compliqué, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a plein de scénarios. Ça, c'est une première représentation sous forme de tableau, et puis dans la diapositive suivante, ça sera sous forme de figure. Mais à nouveau, si on regarde alors Negawatt, Greenpeace, Negatep, l'Académie des technologies, RTE dont je parlerai, de l'ADEME dont je parlerai, alors ici il y a MFDG, c'est parce qu'avec mon collègue Dominique Grand, que vous entendrez la semaine prochaine, ça sera le dernier séminaire. Nous avons aussi publié des scénarios. Comme vous le voyez, la plupart des scénarios, tous les scénarios invoquent des diminutions de consommation d'énergie totale, 1600, entre 850. Et vous avez vu que notre diminution pour ce qui nous concerne est plus faible, avec une perspective de 1500 TWh en 2050 dans 30 ans. De la même façon, ce qui est assez caractéristique, c'est, vous voyez, entre parenthèses, c'est que pratiquement tous les scénarios se trouvent à une contribution de l'électricité de 50%. Alors évidemment, c'est relatif, parce que 50% de 1500, ce n'est pas la même chose que 50% de 900. Donc ça fait des quantités d'électricité qui peuvent être très très différentes. Et évidemment, vous avez aussi une grande variabilité en termes de contribution du nucléaire. Ça va en gros de zéro, pas de nucléaire du tout, jusqu'à quelque chose qui correspond à peu près 350-400 TWh de nucléaire, qui correspond à peu près la situation actuelle. Bon, je vais montrer d'autres scénarios que je trouve extrêmes du point de vue du nucléaire, qui ne sont pas indiqués ici, qui visent des quantités d'électricité nucléaire bien supérieures à ça. Voilà, ici, c'est une représentation pour vous montrer la variabilité de tous ces scénarios. J'ai rapporté ici la partie non électrique sur la partie en fonction de la partie électrique. Évidemment, chaque point vous donne la somme de la consommation d'énergie totale. Donc, en gris ici, vous avez les quatre scénarios ADEME de 2021-2022, donc que je détaillerai un tout petit peu. Vous voyez, un scénario comme S1, c'est moins d'électricité qu'aujourd'hui, beaucoup moins de parties thermiques. Donc, évidemment, on trouve ici les scénarios les plus décroissants, S1, S2, négawatts, avec des quantités totales. Alors, plus vous déplacez le long de cette ligne, et plus vous avez moins c'est décroissant, plus vous êtes en bas, et moins vous avez de parties thermiques, plus vous êtes en haut, plus vous en avez, et plus vous déplacez vers la droite, plus vous avez d'électricité. Voilà, enfin, c'est comme ça que se lit un scénario, mais comme vous le voyez, c'est une très grande variabilité. Alors, c'est assez compliqué de comprendre pourquoi il y a une telle variabilité. Chacun y va, au fond, de ses préférences, hein, en gros. Alors, vous voyez que on finit par accuser les gouvernements de ne pas faire les choses correctement, mais si vous étiez ministre de l'énergie et que vous aviez un truc comme ça, vous faites quoi, hein? Donc, comme en plus ces gens-là ne se parlent pas tellement, tous ceux qui produisent ces scénarios, donc c'est assez difficile, hein, de construire une politique énergétique dans ces conditions. Voilà. Il est de bon ton d'accuser toujours les gens au pouvoir, mais voilà, il est aussi de la responsabilité de tous, en tout cas des experts qui produisent ces scénarios, d'essayer un peu de resserrer les choses et de dire ce qui est possible de ce qui ne l'est pas. Parce que là-dedans, il y a évidemment plein de choses pas possibles, de mon point de vue. Je dirais par exemple ça. De mon point de vue. Scénario terawatt-heure, la voie du nucléaire, ce sont des scénarios qui non seulement invoquent une assez grande diminution de la consommation d'énergie, mais une quantité massive d'électricité. Donc là, c'est un doublement de l'électricité par rapport à aujourd'hui, et avec des quantités très importantes de nucléaire. Je pense qu'ils vont beaucoup trop loin. Mais néanmoins, vous voyez ce type de scénario, et ce qui est indiqué ici, donc, parce que la partie jaune, c'est le nucléaire, et vous voyez ici que transitoirement, entre les années 2030 et 2050, il y a beaucoup de choses de type éolien, solaire, etc. Mais c'est transitoire, puisque ensuite, ça doit disparaître pour arriver en 2070 avec une proportion de nucléaire tout à fait impressionnante. C'est la même chose avec le scénario CEREME ici. Ici, ça vous montre, alors c'est assez intéressant cette figure, parce que ça vous montre le programme nucléaire français, vous voyez, entre 1977 et 2000, hein, la dernière centrale installée, c'est en 1999. Mais vous voyez qu'il y a certaines années, on a démarré 7 réacteurs nucléaires. Et on l'a fait chaque année, une année après l'autre, 7, 6, 5, 7, etc. Donc c'est assez impressionnant quand on voit les difficultés aujourd'hui de penser le nucléaire. Alors, pour arriver à de tels chiffres, hein, ici, là aussi, vous voyez, 750 TWh d'électricité, un nucléaire au niveau de 700 TWh, donc les hypothèses, pour arriver à ça, il faut construire assez massivement, et ici la proposition, c'est, vous voyez, à partir de 2035, c'est 2 réacteurs par an, pendant 15 ans. C'est massif. Et c'est la prolongation des réacteurs actuels pendant 80 ans, évidemment, assurée par l'autorité de sûreté nucléaire. Voilà, donc ça, ce sont des scénarios qui présentent des choses comme ça. Alors, je vais juste maintenant passer un peu de temps sur les deux scénarios qui sont les plus récents, je dirais. Enfin, ceux que je viens de vous présenter ne sont pas vieux, mais ce sont, me semble-t-il, les plus complets, les plus variés, avec à l'intérieur de chaque production ADEM et RTE, plusieurs scénarios, plusieurs possibilités. Et ce sont ceux, notamment les scénarios RTE, qui sont les plus discutés aujourd'hui. En 2022, donc l'ADEME, après avoir en 2015 produit des scénarios qui étaient très axés sur 100% d'énergie renouvelable, notamment pour la production électrique, et qui ont été en partie validés par certains qui pensaient que c'était possible et critiqués par d'autres qui pensaient que ça ne l'était pas, ont fait un gros travail pour présenter plusieurs scénarios avec des contributions diverses et différentes énergies. Et donc, vous voyez le résultat ici. Bon, là, ce n'est pas 1600, mais c'est 1770 TWh en 2015. Et vous avez ces 4 scénarios dont j'ai déjà parlé, S1, S2, S3, S4. Alors, à nouveau, on retrouve en S1 quelque chose qui est juste, enfin, pour moi, impensable. Je ne comprends pas qu'on puisse proposer, qu'on puisse descendre à 790 TWh une baisse de 55% de la consommation d'énergie, c'est juste pas possible, mais effectivement, je ne fais pas toute la liste, mais voilà comment on y arrive. Je vous décris ce que c'est que ce monde-là. Donc, consommation de viande divisée par 3, agriculture sans intrants de synthèse, rénovation des bâtiments massives, réduction drastique de construction, surface des maisons réduite de 30%, moitié des transports à pied, moitié hein, des transports à pied ou à vélo, pas d'utilisation de l'avion. Enfin, évidemment, hein, pour arriver à une telle consommation d'énergie, il faut y aller fort. Hein. Bon, voilà donc ce que l'ADEME vous propose. Comme possibilité. Le scénario S2 est tout aussi violent, hein, 790 ou 820, c'est à peu près la même chose, hein. Une baisse autour de 47%. Voilà. Donc, pardon, oui. Alors, oui, le S2, il est proche du S1, ça ne change pas grand-chose. Bon, le S3, c'est une baisse de 40%, donc on arrive au 1000 TWh. C'est à peu près le niveau, vous voyez, 930, 1100 TWh, c'est à peu près les niveaux qu'on rencontre. Il n'y a que, évidemment, vous l'aurez compris, mon propre scénario avec Dominique que nous avons publié qui vise 1500 TWh en 2050, mais voilà, 1000 c'est à peu près ce que vise la plupart des scénarios. Donc là, il y a un mélange, si vous voulez, pour y arriver, de changements comportementaux et d'apport de technologie. Ici, hein, dans les S1 et S2, il n'y a aucun espoir dans la technologie, hein, pour l'essentiel. Là aussi, il faut arrêter de manger de la viande, il faut, vous voyez, 30% des transports à pied ou à vélo, il faut augmenter les surfaces de culture énergétique, il faut évidemment électrifier le transport, il faut électrifier, décarboner l'industrie, utiliser de l'hydrogène vert, enfin, etc. Et puis, il y a le scénario S4, là qui... bon, et en tout cas, en termes de diminution d'énergie, est plus raisonnable, avec une baisse de 27% en 2050, donc autour de 1200. Le problème, c'est que ça fait intervenir tout un tas de technologies utilisées massivement dans ces scénarios qui, aujourd'hui, ne sont pas matures industriellement et ne sont pas accessibles à l'échelle. Requise, mais évidemment, c'est des sujets sur lesquels on doit travailler, je l'ai dit, donc c'est le domaine de la recherche fondamentale, technologique, industrielle, donc c'est l'exploitation de la biomasse ligno-cellulosique, c'est la capture du CO2, hein, son utilisation, sa séquestration, et là, dans ces scénarios, c'est assez massif, c'est le recyclage, massif aussi, c'est les puits de CO2 qui sont mis en œuvre. Voilà, c'est tout ça. Alors, quelles sont les caractéristiques, assez rapidement, quelles sont les caractéristiques de ces scénarios? D'abord, une grosse proportion d'électricité. Mais ça, comme vous l'avez vu, c'est à peu près le cas de tous les scénarios. Donc, vous voyez, 47, c'est en jaune ici, hein, 47%, 54%, ici je ne sais pas combien, mais c'est pas loin de 50%. Donc c'est toujours autour de 50% d'électricité. Mais si on prend le scénario... voilà. Oui, c'est ça, donc part électrique. Importante. La deuxième remarque, vous voyez, c'est la partie rouge ici, parce que la partie rose qui est importante ici, c'est des énergies renouvelables thermiques. Hein, c'est du bois, des pompes à chaleur, de biocarburant, de la chaleur, de la géothermie, voilà. Et vous voyez, dans tous les scénarios, c'est à peu près la même chose. Mais ici, ce que vous voyez, c'est aussi une part importante de gaz. Le gaz est important dans ce scénario. Et c'est quoi ce gaz? Le gaz aujourd'hui, c'est plus de 400 TWh. Hein. Donc sur les 1600 TWh, il y a 25% de gaz. C'est ce qui est indiqué dans ce graphe-là. Vous voyez ici dans les scénarios S1, S2, S3, S4, on a des quantités de gaz qui sont importantes, 140, 150, jusqu'à 370. Donc tout ça, c'est du gaz. La question, c'est ce que dit ce graphe, c'est par quoi il est produit, ce gaz? Eh bien, vous voyez que, à nouveau, on peut commencer par ces scénarios S1, S2, mais qui ne sont vraiment pas réalistes, mais ici, vous voyez, en vert sombre, c'est du biogaz, hein, donc produit de méthanisation. Dans S3, vous avez non seulement du biogaz par méthanisation, mais vous avez du biogaz par la stratégie power to methane, enfin c'est l'électricité, l'hydrogénation du CO2, enfin production d'hydrogène, hydrogénation du CO2 pour donner du méthane, mais aussi la pyrogazéification, donc une quantité très importante de biomasse qui est utilisée pour faire du biogaz. Vous voyez que partout, il y a encore une certaine quantité de gaz naturel. Comme on n'en a pas, il est importé. D'accord ? Il y a une petite quantité. C'est dans le scénario S4 qu'on a une très grosse quantité d'importation de gaz naturel. Et c'est la croix ici. Vous voyez qu'il y a à peu près 50% du gaz dans ce scénario qui est importé et qui est du gaz naturel. Donc, ce que ça nous dit ici, c'est que, ce que nous dit le scénario ADEME, finalement, c'est que la partie biogaz peut pas monter tellement plus qu'au-delà de 200 TWh. Parce que si c'était le cas, il nous aurait mis 370 TWh de biogaz, etc. Donc, et ça, je pense que c'est assez raisonnable. Là aussi, j'en parlerai abondamment l'année prochaine. Je parlerai de cet aspect de biomasse, mais autant, oui, il y aura du biogaz, mais autant il faut faire très très attention aux ressources possibles en biomasse. Tout n'est pas possible. Et là, on voit une illustration de cette problématique. Pour arriver, donc, vous voyez, à 1200-1300 TWh de consommation d'énergie, il faut 370 de gaz. Et vous voyez qu'on ne peut pas faire sans importation de gaz naturel. La question du gaz est vraiment très importante. Je crois que, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais je crois qu'un pays comme la France, évidemment qui n'a pas de gaz, c'est assez peu... les scénarios se sont... Dans le cas de la France, les scénarios se sont assez peu... préoccupé de la question du gaz. Ici, c'est un exemple où il est pris en compte de façon assez sérieuse, me semble-t-il. Voilà. Et donc, comme vous le voyez, tout ça, pyrogazéification, méthanisation, etc., ça veut dire monter en puissance de l'utilisation de la biomasse, pratiquement un facteur 3. Il faut utiliser 3 fois plus de biomasse que nous en utilisons aujourd'hui. Dans tous ces scénarios, je l'ai dit, donc 50% d'électricité et une très très forte contribution d'énergie renouvelable sur la partie électrique. Une des caractéristiques de ces scénarios ADEME, c'est même si ce n'est pas pour tous les scénarios 100% d'énergie renouvelable comme c'était le cas il y a 8 ans, aujourd'hui, tous ces scénarios implique une énorme quantité d'énergie renouvelable électrique pour la partie électrique. Si je prends ici, c'est lequel celui-là ? Oui, c'est les scénarios S3. Oui, parce qu'à l'intérieur de chacun de ces scénarios, S1, S2, S3, S4, vous avez des sous-scénarios, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ici, si on prend le scénario S3, c'est celui qui correspond à la moyenne générale des scénarios qui était, vous vous souvenez, autour de 1100 TWh de consommation d'énergie. Vous voyez que il y a un tout petit maintien des puissances anciennes du nucléaire existant, et il y a zéro, ou 10, c'est très peu, enfin... très peu de construction de nucléaire. Donc ce sont des scénarios qui donc imposent, puisqu'il y a beaucoup d'électricité, d'augmenter massivement l'installation de puissance éolienne et solaire. Ici, vous voyez, pour le solaire, on est autour de 12 gigawatts actuellement installés. Ce que prévoient ces scénarios, c'est que dans les 30 ans qui viennent, même 25 ans, on atteigne 140 gigawatts, c'est-à-dire 12 fois plus de puissance installée qu'aujourd'hui, et c'est 5 à 7 fois plus pour l'éolien, puisque je fais la somme des deux, éolien terrestre et éolien en mer. Alors vous avez des variantes, c'est un facteur entre 5 et 7 fois plus que ce que d'installer aujourd'hui. On verra que ça pose un problème de vitesse d'installation. Toujours ce scénario S3, donc ça indique... Donc, vous voyez la trajectoire, puisque pratiquement on n'installe pas de nouveau nucléaire, donc c'est une chute, vous voyez, 2015, 2020, 2030, 2050 pour chacun de ces histogrammes, donc pratiquement plus de nucléaire, il disparaît, une augmentation massive, 80 gigawatts ici, 60 gigawatts, ça fait les 140, toiture, sol, Beaucoup d'éolien. Éolien en mer, comme vous le savez, il n'y a pratiquement rien. Donc des augmentations massives d'éolien. Donc ça fait des quantités extrêmement fortes. Ça, c'est pour dire quoi ? À peu près la même chose, c'est l'autre scénario, c'est pas la peine d'en parler. Donc le résultat des courses, c'est que la contribution des ENR, si on fait le bilan de toutes les énergies renouvelables, à la fois dans la partie thermique, biomasse, etc., et dans la partie électrique, on se retrouve avec une contribution évidemment massive, c'est en jaune, dans tous ces scénarios, contribution massive des énergies renouvelables. En bleu ici, eh bien, vous allez trouver en effet la partie gaz naturel importé et puis d'autres choses. Voilà, donc ça, c'est évidemment. Des enjeux majeurs. En tout cas, c'est ce que l'ADEME propose comme scénario. Je vais terminer sur les scénarios de RTE, Réseau et Transport de l'électricité, sont aujourd'hui très, très discutés. Hein. Ce sont peut-être ceux qui sont les mieux connus. Ils ont un inconvénient de mon point de vue, c'est que, mais ça c'est logique puisque c'est RTE, c'est qu'ils parlent surtout d'électricité. Ils traitent bien l'électricité, mais de mon point de vue, pas très très bien la partie non électrique. Donc là aussi, grande variabilité de scénarios, et à l'intérieur de ces scénarios, des niveaux de consommation différents. Alors je vais pas. Donc si vous croisez tout ça, ça fait 18 scénarios. Donc je ne vais pas évidemment les détailler tous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vais me concentrer sur les extrêmes. M0, c'est 100% d'énergie renouvelable. Et N03, c'est le plus nucléaire, il n'est pas massivement, hein, mais c'est le plus nucléaire des scénarios. Et je vais me limiter à la trajectoire de référence, qui est 645 TWh d'électricité sur un total qui est à peu près de 1100 TWh à nouveau d'énergie. Voilà. Donc les scénarios à droite, ce sont des scénarios où il y a du nucléaire. Le scénario N2, c'est pas le plus extrême, mais c'est celui-là. Donc il part de l'hypothèse, mais qui est aujourd'hui raisonnable, hein, compte tenu des décisions, enfin pas des décisions, il n'y a pas beaucoup de décisions qui ont été prises, mais en tout cas des annonces qui ont été faites par le gouvernement français, par le président de la République, c'est d'engager dès 2035, donc il faut commencer en 2035, la construction d'EPR. Voilà, les fameux 6 réacteurs, plus 8 éventuellement, donc ça fait 14 réacteurs. Et on arrive à un mix électrique à 36% de nucléaire. Donc c'est beaucoup moins que ce qu'il y a aujourd'hui, hein, puisque c'est autour de 70%. Mais il y a quand même du nucléaire. Dans le scénario N03 qui va un peu plus loin et qui arrive au fameux 50% de nucléaire dans le mix électrique, il y a ces EPR, aussi 14, la construction de SMR, la décision de ne plus fermer les réacteurs qui sont prévus dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et prolongation des réacteurs nucléaires anciens au-delà de 60 ans. À nouveau, vous savez, je l'ai dit, ils ont été construits pour durer 40 ans. Partout dans le monde, ils durent plus longtemps. Ils vont être prolongés sans aucun doute à 50 ans. Aux États-Unis, on va jusqu'à 80. Enfin, voilà, c'est des hypothèses ici. Chaque fois, c'est évidemment sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire qui valide la qualité de ces réacteurs pour qu'ils puissent continuer. Voilà. Donc la trajectoire est celle-là. Vous voyez, on est ici aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est des graphes, enfin, c'est des figures qu'on voit dans les scénarios RTE. Donc à nouveau, je prends le scénario de référence, 1100 TWh, vous voyez ici c'est 1100 TWh, tout ça. Et on est passé de 1600 à 1100 entre aujourd'hui 2020 et 2050. Quelques mots. Ici, c'est la partie électrique. C'est les 645 TWh d'électricité. C'est beaucoup plus qu'aujourd'hui, hein. Vous vous souvenez, c'est 470 aujourd'hui. Donc là aussi, c'est un effort considérable d'électrification de ce pays. Et ici, évidemment, la question, c'est quelle part de nucléaire ancien, quelle part de nucléaire nouveau, quelle part de NR, donc point d'interrogation. Il y a tous les scénarios, donnent différents niveaux. Mais en tout cas, la projection, c'est 645 TWh. Ici, c'est la partie électrique. À nouveau, je l'évoque souvent, mais c'est celle-là, 460 TWh, qui est assez mal expliquée. Ce qu'on voit ici en noir foncé, c'est le charbon qui disparaît. Effectivement, il a disparu pratiquement aujourd'hui. Ici, en gris foncé, c'est le pétrole. L'hypothèse, c'est qu'il y a zéro pétrole en 2050. À nouveau, pour être cohérent avec ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est quelque chose qui peut paraître étonnant, puisqu'il n'y a aucune projection, par exemple, que le véhicule soit 100% électrique en 2050 en France. Et il y a assez peu de perspectives que les thermiques qui restent soient... RTE, d'ailleurs, évoque à peu près la moitié, 15 millions. Il y a 30 millions de véhicules en France, un peu plus, 33. RTE évoque une perspective de la moitié à peu près de véhicules électriques en 2050, ce qui serait déjà bien. Mais ça veut dire qu'il reste 50% de véhicules thermiques en 2050. Alors certes, on a arrêté d'en vendre en 2035, mais il y a des gens qui vont continuer à en utiliser. Et évidemment, ça sous-entend cela, vous voyez, zéro pétrole, ça sous-entend qu'on aurait trouvé la solution définitive pour produire massivement ce qu'on appelle des carburants alternatifs. Et en gris, c'est le gaz. En gris clair, c'est du gaz. En gris un peu moins clair, c'est du gaz. Alors, aujourd'hui, fossile, et là, demain, ça sera décarboné. Donc, chaque fois, vous imaginez, c'est biogaz, etc. Et puis, il y a une partie non gazeuse ici, et bien, c'est bois, biocarburant, déchets, chaleur, etc. Bon, voilà, c'est ça aujourd'hui, sans doute le scénario le plus connu, le plus discuté, c'est le scénario de référence de RTE. Et donc, je vais y passer un peu plus de temps. Pas la peine d'en dire beaucoup plus. Donc, voilà une autre vision de ce scénario. Plus d'énergie fossile, une partie thermique, que j'ai indiqué, décarbonée, et puis une augmentation de la partie électrique. Ça veut dire que tout un tas d'usages qui consommait des fossiles doit passer dans la partie biomasse et dans la partie électrique. Et si on regarde dans ce scénario les évolutions au fond de la consommation électrique, parce que de passer de 470 ici à 640, bien qu'est-ce qui bouge ? Il y a de l'électricité pour produire de l'hydrogène, donc ça c'est avec l'hypothèse qu'on sera capable massivement à des coûts raisonnables de faire de l'électrolyse de l'eau, ce qui n'est pas encore le cas. L'électrification de l'industrie, ça c'est une constante de tous les scénarios, c'est assez raisonnable, il y a tout un tas de procédés qui vont être électrifiés. La chaleur industrielle va être électrifiée, la production d'acier va être électrifiée, etc. Les transports, évidemment, vous voyez, très peu d'électrique et plus d'électrique, c'est logique. Tertiaire, alors c'est assez curieux de voir une diminution pour l'habitat, mais Didier va nous expliquer. Mais en tout cas, en gros, l'idée, c'est que, en effet, il y a électrification, pompe à chaleur, etc., mais aussi diminution par le fait de la rénovation des bâtiments. C'est ça l'hypothèse. Voilà. Et pour le résidentiel, une baisse aussi du résidentiel. Didier, tu nous expliqueras pourquoi ça baisse, alors qu'on parle d'électrification de l'habitat et du tertiaire. Voilà. Donc, vous voyez ici, on parle que d'électricité pour le moment, mais si je prends donc le scénario le plus extrême à gauche, c'est-à-dire 100% renouvelable, donc c'est la sortie du nucléaire. Donc on déclasse les réacteurs nucléaires de façon accélérée et on accélère photovoltaïque, éolien, énergie marine, etc. De sorte qu'on arrive à 200 gigawatts de solaire, hein, je vous rappelle, on est à 12, et puis ici 130 gigawatts d'éolien, et zéro de nucléaire. Évidemment, vous avez compris, et vous comprendrez la semaine prochaine, mon discours sur... Il y a quand même tout un tas de rapports, et notamment le fameux rapport à l'Agence internationale de l'énergie RTE qui nous disait les conditions pour avoir une quantité massive d'énergie intermittente dans le mix électrique. Il y avait tout un tas de conditions, et en particulier de la pilotabilité, du stockage, du travail sur les réseaux électriques. Et donc c'est ce qu'on voit ici dans ces hypothèses. Bouquet de flexibilité, ça veut dire qu'est-ce qui sert à produire de l'énergie quand il n'y a pas de vent et de soleil, hein, d'accord. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a une quantité de flexibilité de la demande qui est 15 gigawatts, qui est assez énorme. Hein, on doit être autour de 5-7 gigawatts aujourd'hui. L'utilisation... alors, je crois que c'est... 17 gigawatts de véhicules to grid, donc c'est cette hypothèse que les véhicules électriques vont servir de tampon à la variation de la production et de la consommation d'énergie, c'est-à-dire vous aurez votre voiture électrique branchée, avec votre accord bien sûr, RTE va vous charger votre batterie quand il y a trop d'électricité et vous la pompez quand il n'y en a pas assez. Donc ça, c'est assez difficile à mettre en œuvre, mais j'en parlerai la semaine prochaine. Du thermique décarboné, donc il faut des centrales pilotables. Hein, c'est ça le truc. Hein, c'est que il vous faut des centrales thermiques qu'on peut mettre en route et arrêter à volonté. Et c'est 29 gigawatts. Et puis des méga-batteries pour 26 gigawatts. Tout ça est énorme. Et on ne sait pas faire pour le moment pour beaucoup de ces choses-là, en particulier le véhicule to grid et les méga-batteries. Et puis en plus, il y a un port 40 gigawatts de flexibilité avec les interconnexions européennes, c'est-à-dire qu'on donne de l'électricité et on en reprend des pays voisins. On est très très loin du compte aujourd'hui, hein, donc ça veut dire que aujourd'hui on doit être à une dizaine de gigawatts, donc ça veut dire qu'il faut massivement développer de nouveaux réseaux. Hein. Voilà, on n'a pas commencé hein, pour le moment. C'est la conséquence de l'absence de ressources pilotables et de nucléaire. Et ici, si vous voyez, si on considère... Alors, il y a tous les intermédiaires. L'autre extrême, N03, donc là, vous voyez qu'on a moins de photovoltaïque, on a moins d'éolien, mais on en a de façon raisonnable. Hein. Il faut passer de 12 à 70 en solaire, il faut passer de 17 à 65 en éolien, donc il faut le faire. Le nucléaire historique, donc ça c'est la prolongation du nucléaire, et le nouveau nucléaire, c'est les fameux 14 EPR, quelques SMR, etc. Donc on arrive, vous voyez, à une cinquantaine de gigawatts. Le fait d'avoir introduit du nucléaire, on voit tout de suite la différence, on baisse un peu dans la flexibilité de la demande, il n'y a plus les méga-batteries, Ou enfin, il y en a 1 gigawatt, vous voyez, c'est presque rien. Il y a beaucoup moins de centrales thermiques. C'est une des caractéristiques des scénarios de RTE. Une des caractéristiques des scénarios de RTE, c'est la quantité massive d'interconnexions qui sauvent le système. Donc, Dominique Grand parlera de ce problème dans le séminaire, dans le dernier séminaire, la semaine prochaine. Une des caractéristiques de RTE, je le répète, c'est que même dans un scénario assez nucléarisé, pas nucléarisé au niveau de ce qui est notre système est aujourd'hui, mais évoque la nécessité d'avoir des quantités massives d'interconnexions avec les pays européens. Et ça, c'est assez délicat, comme racontera Dominique Grand, parce que, voilà, si les pays voisins vont massivement vers des énergies intermittentes, comme je l'ai dit, quand il fait nuit en France, c'est assez probable qu'il fasse nuit aussi en Allemagne. Et, comme le dira Dominique, ce qu'on définit comme étant le foisonnement, c'est-à-dire le fait que quand il n'y a pas de vent quelque part, il y en a obligatoirement ailleurs qu'on pourrait récupérer. Comme vous le verrez, on vient de publier un article sur le sujet, ça ne marche pas très très bien. Donc c'est une question qui se pose, mais évidemment la solidarité, la politique énergétique européenne, s'il y en avait une, pourrait en effet considérer que la solidarité conduise à améliorer, à renforcer les interconnexions, mais avec une certaine limite que RTE ne s'impose pas, en tout cas, les limites. Voilà, j'ai presque terminé, mais évidemment, et ça c'est vrai pour tous les scénarios, lorsque vous mettez beaucoup d'éolien et de solaire, ça veut dire que vous devez passer, vous devez accélérer massivement l'installation de ces capacités. Aujourd'hui, on est à peu près à 1 gigawatt par an, aussi bien d'ailleurs de solaire que d'éolien. Si on veut atteindre, et vous voyez, je prends le scénario, les scénarios les plus extrêmes, là, M0, M0,1, si on veut atteindre les puissances installées que propose l'ensemble de ces scénarios, et en particulier celui de RTE, qui est, c'est ici le cas, vous voyez qu'il faut passer ici, alors, pardon, oui, c'est, voilà, la France, c'est aujourd'hui 1 gigawatt de... Ici, c'est le photovoltaïque, 1 gigawatt. Vous voyez, dans les meilleures années de ces pays-là, Allemagne, Espagne, Italie, on va entre 2 et 4 gigawatts. C'est des pays qui ont 2 à 4 gigawatts par an d'installation. C'est des pays qui sont les plus massivement impliqués dans l'installation de ces capacités. Atteindre les capacités inscrites dans le scénario M0, c'est autour de 7 gigawatts. Donc, pour y arriver, il faut aller à une vitesse qu'aucun pays dans le monde, même les plus volontaires en matière d'énergie renouvelable, n'ont pas atteint. Donc, il y a quelque chose qui est un peu... je dirais perturbant, mais probablement faux dans ces scénarios. Et c'est la même chose en particulier pour l'éolien en mer, vous voyez. Alors pour l'éolien terrestre, vous voyez, on est à 1 gigawatt, il faut aller à 2, mais d'autres l'ont fait, l'Allemagne, vous voyez. Donc c'est faisable. C'est pas un tel... Mais pour l'éolien en mer, vous voyez, on est à zéro. Enfin, je rappelle que c'est en novembre 2022 qu'on a inauguré, qu'a démarré le parc éolien de Saint-Nazaire, 80 éoliennes, 170 mégawatts. Donc c'est pour ça qu'il y a zéro ici dans le scénario RTE, hein, qui était de 2021. Mais voyez, si on prend la Grande-Bretagne, maximum c'est 1 gigawatt par an. Voilà. Bon, il faudrait qu'on en fasse 2 gigawatts. Donc tout ça, alors qu'on est à zéro. Évidemment, dès que vous passez au scénario où il y en a moins de renouvelables, hein, évidemment, ça diminue. Le scénario N03, c'est 2, en solaire, c'est 1 en éolien sur Terre, c'est un peu moins de 1 en scénario en éolien sur mer. Donc la présence de nucléaire, c'est assez évident, diminue la pression sur l'accélération de ces installations. Voilà. Ici, juste vous dire que dans les scénarios nucléaires, même le N03, vous voyez, c'est quand même une montée en puissance d'installation du nucléaire qui est significative, qui est importante, évidemment, comparée à ce qu'on fait aujourd'hui qui est zéro. C'est moins, ça rappelle ce qu'on a fait en 78, entre 78 et 2002, donc on pourrait dire que c'est faisable puisqu'on l'a fait, mais évidemment il faut des conditions technologiques, industrielles qui le permettent. En tout cas, c'est ça la trajectoire. Mais ce que vous notez aussi, c'est que même avec le scénario le plus extrême, on arrive à peine à 50 gigawatts, donc très, assez loin d'aujourd'hui. Et donc, voilà, bon, ça je l'ai déjà dit. Alors, conclusion, en quelques dias, c'est que, au fond, ce que dit RTE pour une fois de façon très précise, c'est qu'il y a, et j'en suis heureux puisque c'est l'idée que je m'en faisais, c'est qu'il y a un avantage à ne pas se débarrasser du nucléaire. Ici, dans le scénario 50% de nucléaire, c'est le scénario N03, et c'était ce que nous avions démontré aussi en 2021. L'augmentation du rythme d'installation des énergies renouvelables est accessible. Ce sont des vitesses qui sont raisonnables. Enfin, il faut du volontarisme, il faut de l'industrie, il faut de l'activité, mais c'est assez raisonnable, c'est pas inaccessible. 1,5 à 2 gigawatts par an pour chacune des technos, c'est accessible. On n'a pas besoin de passer à 6-7 gigawatts par an. Donc ça met un peu moins de pression. Le coût complet est en faveur des scénarios N03. Le coût complet, vous voyez, est indiqué ici. Si on prend le coût de ces énergies, on arrive à peu près à la même chose, mais ce qui fait la différence, c'est le coût des flexibilités. Grâce au nucléaire, on a de la flexibilité et on a moins de pression sur la quantité de production flexible. Par contre, il y a un coût associé dans les scénarios les plus énergie intermittente. Voilà, pour le reste, c'est à peu près pareil. Donc, vous voyez, la grande différence, c'est les flexibilités. Donc ça, c'est connu depuis longtemps. Parfois, ceux qui défendent le 100% renouvelable l'oublient, mais la question des flexibilités est absolument essentielle. On le redira la semaine prochaine. Voilà. Donc, les coûts complets sont plus faibles dans le scénario N03 que dans le scénario M0. Ce que dit, ce sont des graphes tirés de scénarios RTE. On a une moins grande occupation des sols. Si on regarde ici la projection du nombre d'hectares occupés par des panneaux photovoltaïques au sol à l'horizon 2050, vous voyez qu'on passe de 50 dans le scénario N03 à 200, donc c'est un facteur 4. C'est colossal avec le scénario M0. Et enfin, évidemment, parce que le nucléaire est une énergie bas carbone. Quand on regarde les émissions de CO2, en prenant en compte l'ensemble de la chaîne, hein, c'est ce qui est indiqué ici, l'extraction, la construction, les émissions directes, le cycle de vie, etc., l'aval du combustible, le scénario N03 émet moins de CO2 que le scénario M0. Voilà, j'ai terminé. En tout cas, voilà la leçon du scénario RTE. En effet, l'idéal, c'est un mix nucléaire énergie renouvelable. Et il y a la question du gaz. Il faut la traiter sérieusement. Il faudra du gaz. Moins vous aurez de nucléaire, plus vous aurez besoin de pilotable et ça sera du gaz, parce que c'est la partie la moins émettrice des fossiles. Mais il faudra du gaz. C'est l'exemple que j'ai montré hein, de l'Allemagne. qui met beaucoup de renouvelables, ferme le nucléaire et en fait a maintenu ses capacités thermiques qu'il n'utilise pas, que ce pays n'utilise pas tout le temps. Donc effectivement, en termes de terawattheure, la quantité utilisée par l'Allemagne diminue. Mais en termes de capacité installée, ça n'a pas bougé. Parce qu'on a besoin de cette flexibilité, de cette pilotabilité. Et en fonction de ce que nous déciderons, je redirai pour conclure la semaine prochaine, ce que nous déciderons dans ce pays de nucléaire, il n'est pas impossible que nous ayons à construire des centrales à gaz à l'avenir pour la pilotabilité. La question évidemment sera de savoir si ce gaz pourra être massivement décarboné ou ça sera du gaz naturel, auquel cas il faudra l'importer. Voilà. Voilà, et j'ai terminé sur ces parties scénarios. J'ai essayé de vous donner le plus complètement possible la philosophie de ces scénarios, les résultats des principaux scénarios ADEME et RTE dans le détail. Je crois que ce sont des choses extrêmement importantes que le citoyen doit connaître, parce qu'à la fin, c'est quand même lui qui devra décider et, par les nouvelles loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Les discussions commencent, hein, et nous aurons à en voter une en 2024, je crois. Et également les nouvelles lois et les nouvelles décisions concernant le nucléaire. Voilà, je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.